7h43, faut-il y croire avec Isabelle de Gomain comme tous les samedis matins. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Pierre Veille.
Bonjour Isabelle de Gomain. Les forces irakiennes, dans leur offensive contre le groupe État islamique à Mossoul, ont annoncé à grand renfort de publicité la reprise lundi dernier du tombeau de Jonas, l'un des plus importants sanctuaires du pays. Il y a donc un tombeau de Jonas, le personnage de la Bible, on connaît l'histoire, englouti par une baleine. Et pourquoi est-il révéré par les musulmans, Isabelle?
Alors, effectivement, il y a un monticule à côté de Mossoul, dans la plaine de Ninive, mais il n'y a pas de Jonas, il n'y a pas de tombeau, il n'y en a jamais eu. Jonas, c'est un personnage biblique du livre de la Torah, un conte que les Hébreux racontent pour expliquer comment Dieu pardonne. En fait, c'est un prophète trouillard, c'est pas un super prophète, hein, qui refuse d'abord de faire ce que Dieu lui dit. Alors, il s'enfuit, il fait naufrage, il va vivre dans une baleine avant que Dieu ne l'en fasse sortir. Et il finit finalement par aller voir les habitants de Ninive pour leur demander de se convertir.
Donc, en fait, Isabelle, ce lieu n'a aucune espèce d'historicité.
Non, non, mais oui aussi. Non, parce que c'est un conte, effectivement, que le peuple hébreu raconte pour parler, expliquer le pardon de Dieu. Donc, il n'y a jamais eu de prophète appelé Jonas qui est mort ici. Mais oui, parce que ça fait très longtemps que c'est un lieu saint. Et dans toutes les religions, il y a ce genre de lieux saints, des lieux sacrés, que l'on désigne en fonction du paysage. Ce n'est pas venu de nulle part. Si on a décrété que là était le tombeau de Jonas, c'est que les croyants, juifs au début, avaient fait une sorte d'étude de paysage. Je suis sûre que ça va plaire à Alain, avec à la fois des éléments
Marathon,
d'histoire.
C'est vous, hein, je vous signale. Voilà, elle s'adresse à vous.
Et j'ai fait avec beaucoup d'attention et de plaisir.
Très bien.
Parce qu'on se trouve là sur l'ancienne Mésopotamie, hein, où les Assyriens dominaient le royaume d'Israël. Donc ils ont cherché, et puis ils ont trouvé une colline. Et comme le prophète Jonas parlait d'une colline, ils ont décrété que c'était là. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le tombeau des patriarches à Hébron, la grotte du prophète Élie au Mont Carmel. Mais il y a toujours une intention théologique qui permet de faire parler le paysage. C'est une sorte de paysage aide-mémoire religieuse.
Et alors, ce qui est intéressant, Isabelle de Gomain, c'est que cela est reconnu par les trois grands monothéismes.
Oui, et en fait, c'est souvent le cas, contrairement à ce que tous les fondamentalistes de tous bords voudraient nous faire croire, ne serait-ce que parce que la Torah, c'est aussi l'Ancien Testament des chrétiens, et que le Coran a été révélé au prophète Mohammed dans un contexte où à Médine, il y avait des tribus juives, et il y avait aussi des chrétiens, notamment des moines, qui le connaissaient. Jonas, c'est Yonah en hébreu, c'est Younis en arabe, c'est donc un prophète qui est reconnu par les trois traditions, et la mosquée de Younis, qui avait été détruite par les islamistes en 2014, avait en réalité été construite sur une église nestorienne. Nestorien, c'est les chrétiens du début de l'ère chrétienne qui date du 6e siècle, à l'époque où l'Irak était chrétien. Le Coran reprend nombre de passages bibliques et notamment l'histoire de Jonas. Et pour les chrétiens, Jonas est important puisqu'il est resté 3 jours dans la baleine, c'est comme le Christ avant la résurrection. Donc les musulmans ont construit dessus l'église une mosquée. Il y avait là un tombeau, sans doute un tombeau d'un vieux patriarche nestorien. Ils ont décrété que c'était la tombe de Jonas. Et lorsqu'on visitait ce tombeau avant la guerre d'Irak, on vous montrait à côté les dents de la baleine qui auraient englouti Jonas. Donc c'est un lieu vénéré par les trois traditions. Les grands pèlerins, juifs, chrétiens, musulmans, se sont toujours arrêtés là. Et toujours à la base, les croyances ont comme ça été poreuses jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à maintenant. C'est moins rare que ce que l'on peut penser. Par exemple, aujourd'hui à Marseille, à Notre-Dame de la Garde, vous avez beaucoup de musulmans qui viennent se recueillir devant Marie, qui fait aussi partie du Coran.
Et pourtant, Isabelle, la mosquée de Jonas a été détruite.
Oui, elle a été détruite et par des musulmans, parce que le sunnisme wahhabite, hein, qui inspire les djihadistes, il n'est pas question pour eux d'idolâtrer autre chose que Dieu lui-même. C'est une forme d'absolutisme de la piété qui finalement révèle une forme d'absolutisme de la pensée et de la religion. Le wahhabisme estime qu'il a le monopole de la pureté de l'islam et il voit tous les lieux saints musulmans comme un blasphème, mis à part la Mecque. C'est un peu désolant parce que ces lieux sont utilisés sans distinction avec les croyants de religions différentes. Et c'est toujours les institutions religieuses, elles, qui remettent des frontières. On sait qu'il y a eu les croisades et des croisades meurtrières au nom d'une forme d'exclusivité des lieux saints. Et là, effectivement, avec la montée du fondamentalisme islamique, il y a des gens qui voudraient que l'Irak soit une terre d'islam qui ne saurait conserver des traces d'autres traditions religieuses, ni même d'un islam qui n'est pas correct. Heureusement, la mosquée reprise lundi par les troupes irakiennes va peut-être être reconstruite. On peut espérer que de nouveau des hommes de religions différentes pourront y prier et que subsisteront encore longtemps ces paysages où se mêlent les traces de religions mélangées que seuls les regards pressés ou les regards obtus ne veulent jamais voir.
Faut-il y croire avec Isabelle de Gomain du quotidien La Croix. Merci Isabelle, à samedi prochain.